CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, nous allons voir... Oui, je suis d'humeur comme ça. Aujourd'hui, nous allons voir quel lien y a-t-il entre le service et l'adoration. Un thème qui parle particulièrement à Frank aujourd'hui. Alléluia. Il est en pleine adoration, d'ailleurs, justement. Et tout en servant le Seigneur.
Bonjour chez vous, Hélène. Comment vas-tu?
C'est ta nouvelle voix? Je te défie de garder cette voix pendant toute l'émission, y compris pendant le pasteur. J'ai une question que tu vas faire tout à l'heure.
Ça serait tellement drôle.
Ah, mais ce serait terrible parce que les gens comprendraient rien.
C'est forte chance. Donc, quel lien y a-t-il entre le service et l'adoration, Yveline?
Ben, on va en parler tout à l'heure, mais toi, tu vas faire un pasteur. J'ai une question, Jean.
Et oui, j'en fais un par rapport au, justement, au service dans l'église et la vie personnelle.
C'est comme ça que tu vas parler, Frank, quand tu vas répondre?
Non, c'est parce qu'en fait...
J'ai une petite réponse.
Il réfléchit.
Donc, en plus de temps.
C'est une question de Cynthia du Congo RDC. Comment trouver l'équilibre entre le service à l'église et sa vie personnelle? Et Frank se fera un plaisir d'y répondre tout à l'heure avec grand sérieux, comme il vient le faire, parce qu'il s'est bien préparé.
Ça va être sérieux. Si vous voulez, je vous montre mes notes ici, là. Plusieurs notes, hein, ça va quand même.
Pour tous ceux qui doutaient de ta préparation, tu viens de briser quelque chose.
C'est ça.
Comme quoi, il ne faut pas juger trop hâtivement.
Surtout pas Frank Poulin.
Surtout pas Frank Poulin. Et après le merveilleux pasteur, j'ai une question de Frank, Nadine va venir nous retrouver sur le plateau avec une invitée, Ingrid, qui est l'auteur d'une série de livres, Kiki, la rigolote, je n'en dis pas plus, c'est pour les enfants, mais vous la découvrirez tout à l'heure, en fin d'émission. Et donc aujourd'hui, nous allons voir s'il y a un lien, et quel est ce lien entre le service et l'adoration. Et on commence avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour.
Lors de la tentation dans le désert, il y a une réponse que Jésus a donnée à Satan, alors que Satan lui proposait de se prosterner devant lui. Il a dit, c'est dans Luc 4, au verset 8, qu'on lit ça, Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et dans cette réponse de Jésus, on voit bien qu'il dit, « Tu vas adorer Dieu et tu vas le servir. » Et l'adoration ici est suivie... Adoration à Dieu est suivie du service. Ça signifie que le peuple de Dieu est un peuple qui l'adore, mais aussi que le peuple de Dieu est un peuple qui sert Dieu. Sachant que nous sommes sauvés pour servir Dieu, alors qu'on regarde dans Exode, hein, quand il fallait faire sortir le peuple d'Égypte, là, le Seigneur s'adresse à Moïse et il dit « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, qu'il m'apporte des sacrifices dans le désert. » Donc on parle de sacrifice dans le désert, on parle d'adoration à Dieu. Donc le Seigneur nous a sauvés pour qu'on puisse l'adorer. Quand on se reconnaît comme un enfant de Dieu, on doit pouvoir marcher vraiment vis-à-vis de Dieu, comme toutes les personnes en fait, qu'on regarde dans la parole, on voit que c'était des personnes qui étaient connectées à Dieu. J'ai pris le cas de Moïse tout à l'heure, il parlait face à face avec Dieu, il adorait Dieu, mais tous ont eu des missions également que le Seigneur leur a confiées. Paul a une mission que le Seigneur a confiée. Paul est devenu disciple de Jésus-Christ. Il adorait le Seigneur et puis Dieu l'a envoyé vers les non-juifs. Les disciples eux-mêmes qui ont été en contact avec Jésus, ils adoraient le Seigneur et le Seigneur a rattaché à leur vie une mission qui était celle de prêcher l'évangile dans le monde. Pour nous, aujourd'hui, ça signifie exactement la même chose. En tant que personnes qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre vie, nous adorons notre Dieu et il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. En fait, le Seigneur met dans nos cœurs une mission pour lui. Et alors qu'on remplit cette mission, on obéit à Dieu, on marche entièrement dans l'adoration. Plusieurs chrétiens, ils pensent que servir Dieu, c'est juste, je fais 2-3 trucs à l'église. Mais le service va plus loin que ça. Alors qu'on est en train, dans votre relation avec Dieu, vous allez remarquer que plus vous adorez Dieu, plus vous contemplez Dieu et plus dans votre cœur, il y a des choses qui sont inscrites en fait, des choses que le Seigneur vous demande de faire. Et alors que vous êtes en train de vous mettre sur ce chemin, en fait, vous êtes en train de servir Dieu. Donc, je nous encourage vraiment dans ce sens. D'ailleurs, le psaume 84 au verset 5 nous dit « Celui qui met sa confiance en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. » Mettre sa confiance en l'Éternel, ça veut dire qu'on a choisi de regarder à Dieu. Adorer, c'est contempler Dieu. C'est observer Dieu, voir qui il est véritablement. Alors que tu choisis de regarder à Dieu, mais dans ton cœur, il y a un processus qui va se passer. Le Seigneur va te présenter l'appel qu'il a sur ta vie. Et alors que tu choisis d'aller dans cet appel, mais tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train de l'honorer parce que tu as pris ce temps dans sa présence. Voilà.
Merci Aurélie, c'était très clair ta pensée.
Et beaucoup à dire Aurélie.
Finalement. Beaucoup à dire.
Aurélie, pour la petite anecdote, Aurélie nous dit toujours « J'ai presque rien à dire, j'ai presque rien à dire » et c'est elle qui fait souvent le plus long.
Et oui.
On est habitué Aurélie, encore une fois on avait raison. Est-ce que tu peux le dire publiquement?
Je reconnais pour certains cas,
oh.
Pas pour tous.
Elle est terrible. Dans la Bible, il y a un verset qui dit « Ce peuple m'adore de la bouche, m'adore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Et en fait, on ne peut pas dire au Seigneur « Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur, tu es merveilleux, tu es ci, tu es ça. » Et puis quand Dieu nous demande de faire quelque chose pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, hein, des choses qui sont même simplement écrites dans sa parole, même pas une parole spécifique de Dieu pour notre vie, mais des choses qui sont demandées à tous les enfants de Dieu. Et « Ah, non, désolé, non, j'ai pas le temps, non, je veux pas. » C'est pas logique en fait. Et oui, le service, servir Dieu dans le quotidien, dans toutes les petites choses du quotidien, ce sont des actes d'adoration en fait, parce qu'on démontre à Dieu, mais je t'adore, je t'écoute, je t'obéis, je suis attentif à ta voix, je suis attentif à ce que tu dis dans ta parole, je veux te faire plaisir, je veux faire avancer ton royaume sur cette terre. En fait, un chrétien qui ne sert pas Dieu ne peut même pas dire qu'il est chrétien, parce qu'en fait, Dieu a besoin de nous sur cette terre, sinon, à notre nouvelle naissance, hop, on s'envole au ciel et on passe notre temps à adorer Dieu au ciel. Mais Dieu nous a laissés sur cette terre parce qu'il nous a mis comme des ambassadeurs de son royaume sur cette terre pour qu'on puisse le représenter. Comment allons-nous le représenter si nous ne le servons pas, si nous ne posons pas des actions concrètes et nous ne sommes pas à l'écoute de sa voix pour faire les choses qu'il nous demande? En fait, c'est complètement lié. Et on a un autre verset du jour aujourd'hui qui est dans Deutéronome au chapitre 13 et au verset 4. « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous obéirez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. » Et c'était une directive qui était donnée au peuple d'Israël pour leur marche en fait sur la terre en tant que peuple élu de Dieu. Voici les directives: lui obéir, donc le servir et marcher avec lui et s'attacher à lui. Tout ça, c'est des choses qui sont demandées à la fois au peuple d'Israël, mais qui nous sont demandées à nous en tant qu'enfants de Dieu.
Oui, effectivement, comme j'ai dit aussi, on est sauvés pour servir, vraiment. Et on prend parfois l'exemple du peuple d'Israël, mais nous-mêmes, en tant que chrétiens aujourd'hui, Dieu nous a sauvés. Et le but, justement, c'est qu'on puisse le servir ici, sur la terre. Et plusieurs personnes n'ont pas forcément cette conscience. On aime bien vivre sur la terre, et puis c'est chouette et tout. Mais il y a un ordre de mission qui est rattaché à chacun d'entre nous, en fait. Et alors qu'on est en train de faire cet ordre de mission, en fait, on est en train de démontrer notre amour à Dieu. Parce qu'on parle du lien entre l'adoration et le service. Mais moi, je crois en tout cas fermement que quand tu aimes quelqu'un, tu cherches à lui faire plaisir. Et tu ne peux pas faire plaisir à quelqu'un comme toi tu l'entends. C'est la personne a des choses qu'elle aime, auxquelles elle tient. Et pour faire plaisir à cette personne-là, tu vas taper dans ces choses-là auxquelles elle tient. Et Dieu, lui, il désire que tout soit sauvé, comme on sait. Dieu a donné à chaque chrétien vraiment ce que j'appelle un ordre de mission. Il y a des personnes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, qui vont dire « Ah, mais moi, je ne sais pas comment servir Dieu et tout, j'aimerais le servir. » Moi, je crois que tout chrétien est appelé à annoncer l'Évangile. Ça, c'est valable pour tout le monde. Maintenant, il y a des spécificités qui ont trait à la vie de chaque personne. Il y a des personnes qui ont des appels précis pour servir le Seigneur. Et même, tu as parlé même dans le quotidien. Juste honorer Dieu, juste faire la volonté de Dieu, la façon dont on interagit avec les gens. Quand dans ton cœur, tu es quelqu'un qui aime Dieu parce que tu l'adores, ces choses vont changer dans ta vie, en fait. Et alors que tu es en train de faire ces choses-là, non seulement tu es en train d'adorer, mais tu es aussi en train de servir parce que dans ton quotidien, tu deviens un témoignage pour les gens qui t'entourent. Amen. Mais tu poses aussi des actes d'obéissance que le Seigneur t'aura montré dans le cadre de ta relation avec lui.
Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute?
Frank, décidément, aujourd'hui, je me fais trop rire.
Hybride mille feux aujourd'hui, Frank.
Ouais, ça va quand même. En fait, quand je pense au service, on parle ici d'adoration. Peut-être le plus haut niveau d'adoration, possiblement, c'est celui de sacrifice. Quand Abraham va pour offrir son fils, il dit « Nous allons adorer l'Éternel en offrant un sacrifice. » Et le service ne se fait pas sans sacrifice.
C'est sûr.
Et au travers de notre service, on offre, entre guillemets, un sacrifice à l'Éternel, certaines portions, parties de nos vies. On peut servir Dieu au travers de nos finances. On peut le servir au travers de notre temps. Puis, il va y avoir des saisons aussi où ça va être plus intense. Mais le service, c'est un sacrifice même qu'on offre à Dieu. Et lui, il le voit. Et pour moi, j'associe les deux de cette façon-là. Mm-hmm. Et donc, ce n'est pas de penser que parce que je sers Dieu comme ça, ben je fais juste adorer Dieu comme ça. Il y a différentes façons d'adorer Dieu. Mais le service, c'est certain que ça en fait partie. Et le fait de pouvoir aller au-delà du strict minimum, en offrant un sacrifice à Dieu, quelque chose comme ça, ben ça, il le voit, et c'est comme une bonne odeur qui monte envers lui.
Bien sûr, un sacrifice, ça coûte. Hein. Ça demande un vrai effort. Ouais. Et le service coûte parfois plus que d'autres. Quand on pense au service, des fois, on est limité à, je ne sais pas, je vais faire l'accueil à l'église ou je vais aller m'occuper des enfants, ou j'en sais rien. Mais en fait, le service, ça se passe dans tous les domaines de la vie. C'est vraiment être justement ce représentant du royaume de Dieu sur la terre. Donc, ça va aller dans notre attitude, dans la manière dont on va se comporter avec les autres. Mmh. Le fait d'avoir le courage de parler du Seigneur à une personne qu'on va rencontrer dans la rue, le fait d'avoir le courage de prier pour quelqu'un, aller apporter peut-être un plat à quelqu'un, on sait qui est dans la difficulté, qui est malade ou peu importe, ça va dans tous les domaines, c'est prendre soin de nos voisins, prendre soin de notre famille, tout ça c'est le service, c'est très très large le service en fait, ça peut être très spécifique dans une mission précise, mais ça peut être aussi dans le quotidien, mais ça coûte.
Et réaliser en fait que quand tu réalises que c'est Dieu que tu sers dans le cadre de tout ce que tu fais, il y a une excellence qui va s'attacher à ce que tu fais, en fait.
Ouais.
Parce que ton service ne sera pas juste de faire les choses pour les faire, mais parce que tu réalises que c'est Dieu qui t'appelle à faire ça et que tu le fais vraiment en signe d'honneur à Dieu, mais tu vas réaliser que l'excellence va s'attacher à ça. Et j'aimerais aussi dire aux gens que, en fait, quand Dieu nous appelle à le servir, Dieu nous donne déjà des capacités pour le faire, en fait. C'est pas comme si, parce qu'on parle de sacrifice aussi, parfois, les gens, ils pensent que, OK, c'est par mes propres forces que je vais le faire et tout, non. Quand Dieu nous appelle à le servir, il nous donne des capacités pour le faire. Maintenant, moi, j'encourage les personnes à garder le feu allumé, en fait. Garder cette relation avec Dieu allumée. Parce que moi, je reviens encore à l'adoration pour dire que plus tu vas maintenir cette flamme de l'adoration allumée, plus c'est comme si c'est ce feu qui te porte dans le service, en fait.
Ouais.
C'est ça qui fait en sorte que ton service est plus excellent. Parce que tu vas puiser tes sources en Dieu. Tu vas puiser tes capacités en Dieu. Et ça fait une différence même dans ton service. Donc, non seulement il y a le lien où, parce que tu aimes Dieu, tu le sers, mais il y a aussi ce lien où, parce que tu es connecté avec Dieu constamment dans l'adoration, tu as cette flamme maintenue allumée qui te permet de continuer à le suivre, à le servir dans le temps.
C'est ça, en fait, ça donne le zèle dont on pourrait manquer, en fait, pour pouvoir continuer à le servir, s'investir pleinement. Frank, on enchaîne avec toi, si tu es prêt à répondre donc à la question de Cynthia du Congo RDC. Comment trouver l'équilibre entre le service à l'Église et sa vie personnelle? Et on sait que ça peut devenir un vrai problème, parce que parfois, justement, la vie personnelle peut être complètement mangée par le service. Il faut trouver un équilibre.
Ouais, complètement, Cynthia, et c'est une très bonne question. Et en fait, je veux commencer par dire que c'est pas en dérivant au hasard comme ça qu'on va avoir une bonne organisation et équilibre de vie. En fait, un bon équilibre de vie va se planifier, va être structuré et ça va venir et ça va découler des choix que nous allons prendre. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que souvent, c'est le contraire qui se passe. On a toutes sortes de sollicitations et là, on dit oui, oui, oui. Et en fait, c'est toutes les sollicitations qui organisent notre vie alors que c'est nous qui devons choisir ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas selon le temps qu'on a et selon nos priorités qu'on a dans nos vies. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc là, je prends un passage, il y en a tellement par rapport aux priorités, le fait de mettre Dieu en premier, etc. et tout. Mais là, le psaume 90:12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse ». Ici, ce que je parle de, c'est la sagesse. Qu'est-ce que je t'ai expliqué? Le fait de savoir dire non, oui à certaines choses, c'est d'être sage dans nos décisions, parce que oui, nos jours sont comptés, on ne va pas vivre ici pendant 500 ans, on a une mission à accomplir et on doit maximiser et on doit pouvoir influencer vers le bon et prendre les bonnes décisions dans les différentes sphères de nos vies. Parce que Frank porte le chapeau de Frank ici, chroniqueur. À l'église, c'est le prédicateur, c'est l'évangéliste. Le soir, avec mes garçons, c'est le professeur qui aide dans les devoirs. Je suis le mari. Je suis toutes sortes de choses ici à UMCI. J'ai toutes sortes de casquettes que je pourrais mettre. Et si je ne dis pas non à certaines choses, ben, je vais me faire étouffer et je vais me faire prendre. Et puis, ça a des mauvaises conséquences dans les autres endroits de nos vies. Très important de le comprendre. Donc là, on rétablit l'ordre spirituel, Dieu et notre relation avec lui. Pas notre service avec lui, notre relation avec lui. Le cœur à cœur que tu vas avoir avec. Notre couple, notre famille et enfants, etc. Après ça, notre vie d'église qui comprend notre service et notre ministère qui peut être intégré dedans. Ou notre travail et parfois... Oui, ça peut choquer des gens. Je dis bien, notre service à l'Église et parfois le travail va être devant l'Église. Vous allez, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, en fait, Dieu, parfois, il va nous bénir avec un bon travail. Et pendant une bonne saison, une saison particulière, la bénédiction que Dieu nous a donnée dans ce travail va nous permettre de pourvoir aux besoins de notre famille. La Bible est tellement claire. Celui qui ne prend même pas soin de sa famille est pire qu'un païen. Et parfois, le service à l'Église, c'est très bien. Et je sais que je choque certaines personnes en disant ça parce qu'on s'est souvent fait dire que c'est l'Église avant tout, mais attends un peu, ça c'est déséquilibré selon moi. Et il y a beaucoup de familles et des couples et des gens qui souffrent à cause que l'Église a pris trop de place. Et on parle de service aujourd'hui, c'est très bien. Et on doit servir, on doit avoir un rôle à jouer. Mais il ne faut pas être déséquilibré et il faut savoir discerner les saisons et les grâces qui vont avec chaque saison. C'est très important. Donc là, moi, personnellement, je tiens à dire aussi une dernière chose par rapport à ça. J'ai vu beaucoup trop de gens être brûlés par le service ministériel, épuisés, découragés, fatigués, qui ne veulent même plus quasiment aller à l'église ou s'ils y vont, ils ne veulent même plus lever le petit doigt parce qu'ils ont tellement fait, l'église a tellement siphonné tout ce qu'elle pouvait prendre de eux. Qu'ils ont, c'est un mur, c'est barre, et pourtant ils sont bourrés de talent pour Dieu, ils sont des hommes et des femmes moins de la part de Dieu, mais à cause d'un déséquilibre, ça l'a amené cela. Et c'est pour ça que je dis tout ça aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de ferveur, c'est parce que j'en ai vu beaucoup, et c'est triste, c'est décourageant de voir ça. Et c'est pour ça, comme je reviens à dire, c'est très important cet équilibre, et de comprendre aussi que si tu as des jeunes enfants, c'est pas pareil que la réalité de l'autre, que ces enfants sont rendus à 20-30 ans. Tu n'as pas la même quantité de temps et de choses à faire. Moi, avec mes enfants, j'ai du travail à faire à la maison, d'école. Oui, je fais ça avec mes enfants. Si je suis constamment en train d'aller à l'église ou faire autre chose... Non, je suis déséquilibré. Et ça va amener qu'à avoir des enfants qui sont frustrés après l'église et après Dieu parce que Dieu ou l'église, et pour eux, ils vont voir l'église comme étant Dieu, Dieu a pris mon père ou ma mère. Ils n'ont pas été là pour moi quand j'en avais besoin. Et ça crée des enfants rebelles et qui vont s'éloigner de Dieu. Et comme la Bible dit, et je suis d'accord, à quoi vaudrait-il, Frank, de gagner tout le monde entier si mes propres enfants se perdent à cause du manque d'équilibre dans ma vie et des mauvais choix que j'ai faits? Ce serait terrible, épouvantable. Ce serait une catastrophe. Et c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Donc, prioriser nos familles, notre travail avec eux, savoir discerner leur âge, qu'est-ce qu'ils ont de besoin, etc. Et quand que le mari est dans une certaine saison, ou la femme, et ben, l'autre peut donner un petit peu plus à l'église, mais l'autre reste plus à la maison peut-être. Mais ce n'est pas des temps de 6 mois. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on va te donner tellement, et pendant longtemps, et c'est une saison, mais une saison, ça se retrouve quand tu es 2 ans et demi et tu n'as pas vu tes enfants grandir. Et ça, c'est triste. Donc là, il faut savoir bien discerner. Donc concrètement, voici la réponse, Cynthia, je reviens à ce que je disais, il n'y a plus beaucoup de temps. Tu vas devoir établir dans ta vie, selon tes priorités, en accord avec la parole de Dieu, tu vas devoir établir ses priorités. Le service est important, mais pour certaines cultures et dénominations, c'est trop extrême. Je suis désolé de le dire, c'est vraiment vrai et c'est la réalité. Là, je veux parler au pasteur aussi, soyez conciliants avec les gens qui sont là. La majorité des églises en Amérique du Nord ont moins de 100 membres. Et des petites églises, c'est les mêmes personnes qui font tout, et les pasteurs demandent aux gens de tout faire. Et c'est très, très néfaste aussi. Il faut faire attention et être sage en tant que pasteur. Dernière chose que je souhaite de dire, c'est de prier et de savoir discerner les saisons dans lesquelles tu es, parce que trouver un équilibre parfait qui va durer toute la vie, ça n'arrivera pas. Parce que les saisons viennent, les enfants vieillissent, les choses changent, et tu vas devoir balancer, entre guillemets, au lieu d'essayer de dire « je vais avoir un équilibre coulé dans le béton pour ma vie », c'est pas possible. Je l'ai déjà essayé, ça marche pas. Voilà, Cynthia, sois bénie. Alléluia.
Merci, Frank. Excellente réponse.
Amen.
C'était très, très bon. Si, comme Cynthia, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjayunequestion@emcitv.com. Nous allons maintenant nous séparer de Frank et Aurélie pour accueillir Nadine et son invitée, Ingrid Meigny. On les accueille tout de suite pour la rubrique Culture et Médias. Et Nadine et Ingrid m'ont rejointe. Vous allez bien?
Oui, très, très bien.
Bienvenue Ingrid sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est un plaisir. Je vais laisser Nadine te présenter parce qu'aujourd'hui, Nadine, là, je vois, il y a des livres et tout ça. Oui. On veut tout savoir.
Aujourd'hui, on présente des contes pour enfants et pas n'importe quel conte, des contes très, très intéressants avec Ingrid. Bienvenue d'ailleurs, Ingrid.
Merci.
Ingrid, je te connais comme une sœur. On a pu se parler quand même, pu échanger. Oui. Tu es une sœur en Christ et la francophonie ne te connaît pas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Avec plaisir. Merci déjà de me recevoir dans votre belle émission que j'aime tellement. Donc, c'est ça. Je suis Ingrid Meigny. Je suis enfant de Dieu. Mariée, maman de trois petits cocos. Mmh. Donc c'est ça, j'écris des livres jeunesse, chrétiens. Donc j'utilise l'imaginaire divin pour révéler Christ aux enfants. Mmh. Donc c'est ça en gros.
Et donc tu as fait ces contes en fait qu'on présente aujourd'hui. Donc il y a Drake le loup végé, il y a Enora. Et en fait ça vient de Kiki la rigolote, c'est comme la maison en fait qui porte ces contes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Justement, en fait j'ai dit sous le nom de Kiki la rigolote. Mm-hmm. Donc dans le fond c'est de permettre aux enfants de prendre plaisir à découvrir Christ déjà parce que comme je disais, je suis maman. Mm-hmm. Et quand j'allais souvent sur YouTube ou encore même le choix des chaînes télé pour trouver des programmes pour mes enfants, des programmes chrétiens, j'avais de la peine.
Oui.
Donc j'avais déjà à cœur de produire des œuvres chrétiennes pour les enfants. Mm-hmm. Et à côté de ça aussi, je suis monitrice dans mon église à Impact Centre Chrétien Montréal. Mm-hmm. Et j'ai justement constaté que les enfants avaient du mal à faire le lien entre la parole qu'on leur enseignait et ce qu'ils les réalités de leur quotidien.
Ouais.
Donc, c'est clair que les enfants étaient plus aptes à la récitation de ce qu'ils recevaient. Mmh. Donc, ils ne comprenaient pas forcément comment cela s'applique à leur vie. Donc, suite à ça, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et j'ai porté cela devant le Seigneur. J'ai commencé à prier et le Saint-Esprit m'a révélé des histoires, des scénarios. Ça pleuvait dans mon esprit. Mmh. Et puis, je me suis dit, il faut passer à l'action et produire ces livres.
Et tu dis, ça pleuvait dans ton esprit. On va en parler tantôt des projets à venir. Mais déjà, tu dis que tu voulais expliquer aux enfants. Et dans ce Drake ici, le loup végé, l'histoire est quand même assez rigolote.
Oui.
Et dans les autres aussi. Et on dit que c'est des contes pour enfants de 3 à 10 ans. Mais c'est pas que pour des enfants chrétiens, en fait.
Non,
et c'est ton matériel est accessible en fait à toutes sortes d'enfants.
Exactement. Donc à la fin, déjà l'approche imaginative que j'utilise d'emblée quand un parent le prend, d'un coup il ne sait pas si c'est chrétien ou pas.
Ouais,
donc rien ne lui indique, il n'y a pas de croix, il n'y a pas de signe, le thème est accrocheur.
Oui.
Et puis j'utilise beaucoup d'imagination. Mm-hmm. Fait qu'il y a des animaux qui sont personnifiés, tout ce qu'il faut pour aller chercher l'attention des enfants. Mmh. Et justement, c'est quand l'histoire se déroule que l'enfant, Jésus intervient comme un personnage, Dieu, il intervient comme un personnage, et puis c'est en lien avec les réalités des enfants. Donc facilement, l'enfant peut comprendre comment est-ce qu'il peut gérer peut-être, je ne sais pas moi, la peur du noir, ou encore la timidité, ou encore même l'intimidation, comment concrètement il peut gérer ça en tant qu'enfant de Dieu. Donc en même temps aussi, Christ est présenté aux enfants, parce qu'à la fin de toutes mes histoires, j'ai une section où je présente Christ, je lance l'appel au salut. Donc un enfant même qui n'a jamais entendu parler de Dieu, écoute, c'est ça. J'ai eu des témoignages des parents.
Est-ce que tu peux nous en partager des témoignages? Je suis trop curieuse là.
Il y a Milo à la bouche, là.
Justement, j'ai reçu le témoignage d'un petit garçon. Qui a 4 ans, il va à la garderie encore. Puis il avait lu l'histoire de Drake le loup végé. Parce qu'il faut dire que l'histoire de Drake le loup végé, c'est l'illustration de la nouvelle naissance pour les enfants. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc le petit garçon a parcouru l'histoire et ça apprend aussi aux enfants à comment prier pour leurs amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc ce petit garçon a saisi en fait, la leçon, cette leçon-là de comment prier pour les amis qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il a fait, dans sa garderie, son camarade était pas gentil avec lui. Donc, il comprenait pas pourquoi, tout le temps, il n'était pas gentil avec lui. Et puis, il a pris la décision de prier pour son ami. Il a prié pour son ami, ça a pris quelques jours. Et quand il est arrivé à la garderie, un de ces jours comme ça, ben, son ami était devenu tout gentil. Il lui a dit, écoute, j'ai prié pour toi. Et voilà, je suis content de voir que tu as changé, tu es gentil avec moi. Les enfants, c'est ça c'est en fait, les petits-enfants de 4 ans, tu sais, de venir leur dire, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, ils ne vont pas comprendre.
Ouais,
voilà, mais illustrés de la sorte, ils peuvent l'appliquer à leur petite vie.
Oh, et
vraiment.
Et c'est des belles illustrations, ça, on l'a dit avant l'émission, on tenait à le répéter à la caméra, c'est des belles illustrations, c'est une belle image, une belle qualité de papier et tout. Ça, c'est un travail de qualité au niveau aussi de la conception. Et il nous reste quelques secondes. Tu nous as dit que ça pleuvait dans ton esprit. Quels sont les prochains projets de Kiki la rigolote?
C'est sûr qu'en perspective, j'aimerais ça en faire des films d'animation de mes histoires. Donc, je voudrais que chaque parent puisse avoir... En ce moment, on a Superbook qui fait fureur, là, au niveau des enfants. Ils aiment ça, mais je pense que jusqu'à date, c'est le seul programme qu'on a, le seul film d'animation pour les tout-petits. J'aimerais justement animer ces histoires que j'écris. Donc, par la suite aussi, deux prochains livres vont sortir en début d'année prochaine, si tout se passe bien.
Tout se passera bien par la grâce de Dieu. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur son site, c'est kikilarigolote.com.
Exactement.
Merci beaucoup, Ingrid.
Merci bien.
Merci, Ingrid. Très, très belle initiative. C'est vraiment super. Faut encourager ce genre d'initiative, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est pas évident de se lancer là-dedans, en plus en autopublication, c'était un pas de foi, et je vous encourage vraiment à soutenir le projet, et puis à bénir vos enfants, les enfants que vous connaissez autour de vous, avec des ouvrages de qualité, et des histoires qui peuvent bouleverser leur vie. Merci Ingrid, merci à toi Nadine pour cette belle trouvaille, et nous on va se retrouver demain, notre thème sera comment être un précurseur dans sa génération. Et nous aurons un témoignage dans la rubrique C'est mon histoire. On va commencer une série de 3 C'est mon histoire avec des témoignages du pasteur Fofi Ndelo. Vous le connaissez, bien là vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses sur lui. Il va nous partager pour commencer demain sa conversion, comment il a été le premier chrétien de sa famille. On en parle demain dans Bonjour chez vous. Merci de nous avoir suivis.
Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCITV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.